Radio France Internationale, 9h à Paris, il est 10h à Gaza.
RFI Matin.
Un nouveau journal avec vous, Martin Guez, et Israël qui frappe l'enclave palestinienne au nord comme au sud.
Rafah complètement dévastée au sud de l'enclave alors que l'armée de l'État hébreu intensifie ses opérations et entend séparer les villes de Rafah et de Ran Younes, tandis qu'au nord de Gaza, Israël a frappé ce matin un hôpital de Gazaville, le dernier établissement encore en service dans cette partie du territoire palestinien.
C'est le 50e anniversaire ce dimanche du début de la guerre civile libanaise.
Guerre fratricide qui a laissé des plaies béantes dans le pays, 15 ans de guerre qui ont fait plus de 150 000 morts et des milliers de disparitions. Week-end d'élections présidentielles au Gabon, hier les résultats sont attendus à la mi-journée. En Équateur, aujourd'hui, où les deux finalistes se tiennent dans un mouchoir de poche. Enfin des mots, ce grand dimanche de sport, le marathon de Paris qui a débuté depuis une heure. Et Paris-Roubaix qui débute dans deux, la classique des classiques, qui accueille un nouveau venu, un certain Tadej Pogacar, qui n'est pas venu pour compter les pavés, vous l'entendrez.
Et Israël qui étend donc son offensive à Gaza.
Et a frappé ce matin un hôpital de Gazaville. Le Hamas qui dénonce un nouveau crime de guerre. Le service d'urgence de l'établissement aurait été pris pour cible, forçant l'évacuation des patients et des blessés. L'hôpital Al-Ahli qui avait déjà été pris pour cible en octobre 2023. La frappe de l'armée israélienne qui avait à l'époque fait des centaines de morts. Israël qui étend son offensive dans l'enclave palestinienne et qui contrôle désormais l'axe clé de Morag, un corridor séparant les villes de Rafah et de Ran Younes. L'armée israélienne a d'ailleurs appelé les dizaines de milliers d'habitants de Ran Younes à évacuer. Le moment est venu d'éliminer le Hamas, a assuré le ministre de la Défense de l'État hébreu Israël Katz. L'objectif du gouvernement israélien est aussi de mettre en œuvre le plan d'expulsion de Donald Trump. Reportage de Rami El-Merari et Abla Junaidi.
Fuir Rafah, Rafah défigurée, ses quartiers résidentiels anéantis. Sur le trajet de cette énième fuite, Shirin Dirbi a le souffle coupé et les yeux emplis de larmes.
Rafah, les quartiers Saoudi 1, Saoudi 2, Barama, vraiment, quand le chauffeur y est passé, c'était comme l'apocalypse. C'était un paysage surnaturel, pas une pierre, pas un arbre n'était debout.
À Al-Mawassi, zone dite humanitaire mais jamais épargnée par le feu israélien, Shirin a retrouvé un voisin, Wael Moussa.
Pour enlever tous les décombres que j'ai vus, toutes ces destructions, il faudra de longues années. Que Dieu Tout-Puissant nous vienne en aide et nous délivre de cette tragédie, de cette réalité que nous vivons.
L'écrivain Faïz Abou Shamala, originaire de Khan Younes, a entendu les propos de Benjamin Netanyahou la semaine dernière. Le Premier ministre israélien veut mettre en œuvre le plan Trump de migration volontaire.
Les Israéliens cherchent à assiéger les habitants de cette petite zone isolée entre les axes Philadelphie et le nouvel axe qui s'appelle Morag, avec pour objectif, le moment venu, de faire partir les gens en direction de l'Égypte.
Loin d'être un exil volontaire, si ce plan était bien mis en œuvre, il s'apparenterait à un transfert forcé de population, un crime au regard du droit international, a encore rappelé le Haut Commissariat des Droits de l'Homme de l'ONU. Rami El-Merari, Gaza, Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
Et la branche armée du Hamas qui a publié une vidéo d'un otage. Il s'agirait d'Edan Alexander, membre d'une unité d'élite. Ils sont encore 58 captifs dans l'enclave palestinienne.
Nous sommes, Martin, le dimanche 13 avril 2025. Il y a tout juste 50 ans débuté la guerre civile au Liban.
Une guerre qui durera 15 ans. 15 ans d'enlisement et de violence. De 1975 jusqu'à 1990 et les accords de Taif qui mettront fin à ce conflit fratricide qui a fait au moins 150 000 morts et des milliers de disparus. Notamment ces 100 scènes de personnes enlevées par la Syrie, le régime syrien qui a participé à la guerre civile libanaise avant de mettre le Liban sous tutelle en 2005. Reportage à Beyrouth de notre correspondante Sophie Guignon.
Depuis 1987, le père de Abir Abouzaki a disparu en Syrie. Son absence est une plaie béante pour la jeune femme qui a frappé à toutes les portes pour connaître son sort, sans succès.
Depuis sa disparition, nous essayons de savoir ce qui lui est arrivé. C'est encore plus dur depuis la chute du régime, mais on a encore l'espoir qu'il revienne vivant.
Avec la fin du régime de Bachar al-Assad et l'ouverture des prisons syriennes, une dizaine de Libanais ont été retrouvés. Abir ne décroche pas de sa télévision et de groupes sur les réseaux sociaux où des familles de disparus se partagent des informations.
Je suis sur ce groupe et je regarde tout le temps tous les noms pour voir si mon père en fait partie.
Dans le salon, à côté du canapé, une chaise avec un portrait de son père en noir et blanc jauni par le temps.
Il a toujours sa place dans la maison. Il est assis là, il accueille les visiteurs avec nous, il est présent pendant nos conversations. C'est en droit que mon père est une sépulture, que je puisse aller le visiter. J'ai le droit de savoir s'il est réellement mort. Je veux juste arrêter d'être dans l'attente.
Une attente douloureuse qui risque de s'éterniser. Le dossier des disparus n'est pas considéré comme une priorité pour l'État libanais. Sophie Guignon, Majdalaya, RFI.
À Oman, de premier pour parler, qui en appelle d'autres.
Washington et Téhéran, qui avaient rendez-vous hier à Mascate, capitale du sultanat d'Oman. Des discussions positives et constructives, un pas en avant, selon l'émissaire américain Steve Witkoff. Nous nous sommes beaucoup rapprochés d'une base de négociation, dit lui le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Donald Trump, qui avait mis la pression et annoncé mercredi qu'une intervention militaire était tout à fait possible en cas d'échec des négociations. Une intervention qui se ferait sous l'égide d'Israël. De nouvelles négociations entre les vieux ennemis américains et iraniens, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans, doivent de nouveau avoir lieu la semaine prochaine.
Donald Trump, encore lui, le président américain, qui relâche un peu la pression face à la Chine.
Et qui exempte finalement les smartphones de droits de douane. Il faut dire que le prix d'un iPhone aurait pu monter à plus de $3,500 pour le consommateur américain, avec les barrières tarifaires en place. Produit finalement frappé, comme les autres, d'une surtaxe faramineuse de 145% imposée par Donald Trump à la Chine. Les smartphones, mais aussi les ordinateurs et composants électroniques, qui représentent 20% des marchandises importées par les États-Unis depuis la Chine.
RFI à Libreville, 104 FM.
Libreville où les 8 heures passées de 7 minutes, le Gabon dans l'attente des résultats de la présidentielle.
8 candidats qui patientent et quelques 900 000 électeurs qui ont largement pris part au scrutin hier. 87% de participation selon le ministère de l'Intérieur. Le dépouillement qui a immédiatement commencé hier soir à la fermeture des bureaux de vote. Pas d'incident majeur à signaler. Les 500 observateurs déployés par le ROC, le réseau des observateurs citoyens, relève cependant quelques refus d'accès aux bureaux de vote à ses membres dans plusieurs localités. Mais tout a fini par entrer dans l'ordre. Salut Linda Nsabekale, elle est porte-parole du ROC.
Franchement, avec le regard que nous avons des anciennes élections, pour ne prendre un exemple que celle de 2016 et 2023, c'est un vrai sentiment de satisfaction et surtout de, pour ma part, je dirais d'espérance d'un processus démocratique véritable enfin dans notre nation. Ce n'est pas fini, mais c'est une très belle étape. Déjà, pour la première fois, nous avons eu une élection où nous n'avons pas vraiment enregistré d'incidents. Ce sont des incidents mineurs. Compte tenu du processus, on a la possibilité de saisir directement les autorités administratives et des élections pour pouvoir attirer l'attention ou sonner la sonnette, l'alarme, toutes les fois où il y avait des problèmes de ce genre ou des incidents. Ce qui a été fait très rapidement, quelques heures après, la question était réglée, les observateurs étaient dans les salles. C'est pourquoi je parlais d'incidents mineurs.
Linda Nsabekale, porte-parole du ROC, jointe par François Mazet. Les résultats qui sont attendus aux alentours de 13h30, heure de Libreville.
C'est l'heure à laquelle environ ouvriront les bureaux de vote en Équateur.
Oui, 13 millions d'Équatoriens qui sont attendus aux urnes ce dimanche pour un scrutin très serré. À peine 20 000 voix qui séparaient mi-février lors du premier tour. Le président sortant Daniel Noboa et sa rivale de gauche, Luisa González, candidate du parti de l'ancien président Rafael Correa, dans un pays miné par la crise économique mais aussi sécuritaire. L'Équateur devenu une véritable plaque tournante mondiale du trafic de cocaïne et en proie à une guerre de gangs, le pays qui affiche l'un des pires taux d'homicides du continent sud-américain.
Et puis Martin, la plus grande mer intérieure du monde est en grand danger.
Oui, la mer Caspienne en voie de disparition, bordée par la Russie au nord et par l'Iran au sud. Longue de 1300 km, elle va voir sa surface considérablement se réduire. La mer Caspienne, qui devrait perdre 21 mètres de profondeur d'ici la fin du siècle à cause du réchauffement climatique. Voilà les conclusions d'une étude scientifique menée par la revue Communication Earth and Environment. Les conséquences de cet assèchement seront terribles pour la biodiversité, mais aussi pour l'homme, Jeanne Richard.
C'est l'augmentation des températures et donc l'évaporation de l'eau, en plus de la baisse des pluies qui entraîne le déclin de la mer Caspienne. En parallèle, les deux plus grandes rivières qui alimentent cette mer enclavée, l'Oural et la Volga, ne compensent pas. Leur débit diminue également. Résultat, le niveau de l'eau pourrait baisser de 21 mètres si le réchauffement climatique continue à s'accélérer, soit une perte de près de 40% de la superficie actuelle de la mer, estiment les scientifiques. Selon eux, rien qu'une baisse de 5 mètres de profondeur mettrait en péril les sites de reproduction des phoques de la Caspienne et les lieux de vie des esturgeons, deux espèces endémiques déjà menacées, et en tout, des centaines d'espèces locales et migratoires seraient affectées. Les chercheurs alertent aussi sur les conséquences humaines et économiques de ce déclin. Des villes portuaires se retrouveraient à plusieurs dizaines de kilomètres du rivage. Les échanges maritimes, les industries et les pêcheries deviendraient obsolètes. Les auteurs de l'étude appellent donc à se préparer dès à présent, commencer à diversifier l'économie et adapter les sites naturels protégés.
Jeanne Richard du service environnement de RFI, un assèchement qui en rappelle un autre, celui de la mer voisine d'Aral qui a perdu plus de 90% de sa surface en 50 ans. Le Kazakhstan qui a toutefois récemment annoncé une légère augmentation du volume d'eau dans le cas de la mer d'Aral.
Martin, le Japon accueille le monde.
L'exposition universelle 2025 qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Osaka. 160 pays et régions sont au rendez-vous. Une édition futuriste qui a choisi pour thème la société du futur, mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et le spatial. Osaka qui avait déjà accueilli l'événement en 1970. La dernière exposition universelle s'était tenue à Dubaï il y a 3 ans.
On termine sur les terrains et d'abord sur le bitume parisien.
Et oui, pour la 48e édition du Marathon de Paris, les 56 000 participants qui ont pris le départ il y a un peu plus d'une heure. Les plus rapides arriveront au moment du prochain journal international de Jeanne Bartoli, l'Éthiopienne Tirunesh Dibaba, qui arrivera peut-être juste après, à 39 ans, la superstar qui est l'une des attractions de cette édition. Elle qui recourt pour la première fois un marathon depuis 2018.
Et chez les hommes, ils sont toujours une vingtaine en tête. Eux préfèrent les pavés et se préparent à vivre l'enfer.
L'enfer du Nord sur vos terres. Nemo Hampis place à la 122e édition de Paris-Roubaix, la reine des classiques cyclistes. Le grand favori s'appelle Mathieu Van Der Poel, le néerlandais double tenant du titre. Mais il aura fort à faire puisque le boulimique Tadej Pogacar prend pour la première fois le départ de la course. Champion du monde en titre, vainqueur du dernier Tour de France, le Slovène n'a aucune limite. Il se lance un pari à son image, un pari pour Poggi, un pari complètement fou, Thomas de Saint-Léger.
C'est un peu comme tous les années, sauf qu'il y a Tadej qui prend le départ aussi.
Un détail qui veut dire beaucoup pour Mathieu Van Der Poel, le spécialiste des pavés, coureur puissant, massif, chassé sur son terrain par un champion du Tour de France. C'est quasiment du jamais vu d'ailleurs, avec son 1m76 pour 66 kilos. Tadej Pogacar n'a pas vraiment la tête d'un vainqueur à Roubaix. Julien Jourdi, directeur sportif de l'équipe Décathlon à G2R.
Honnêtement, chapeau à lui d'oser se mesurer à des Ghana, à des Wout Van Aert, à des Pedersen, à des Mathieu Van Der Poel. On les voit côte à côte, c'est pas du tout les mêmes gabarits. Pour moi, au départ, il a perdu. Mais avec Poggi, on peut pas le dire.
D'autant que le Slovène a battu Van Der Poel et les autres dimanche dernier au Tour des Flandres. Les pavés de Paris-Roubaix sont différents, bien sûr. Plus rudes, plus dangereux aussi. Une mauvaise chute peut vous ruiner la saison. Alors pourquoi Pogacar s'y risque-t-il ? Parce que c'est un coureur différent, tout simplement.
Je veux essayer tout ce que le cyclisme peut me faire découvrir, voir mon sport sur tous ses aspects. Et puis, Paris-Roubaix est une course magnifique, incontournable, historique. Donc, je voulais participer.
Avec des ambitions, forcément. En cas de succès à Roubaix, Tadej Pogacar imiterait le mythique Eddy Merckx. Dernier vainqueur sortant du Tour de France a triomphé sur l'enfer du Nord. C'était en 1973. Thomas de Saint-Léger, Compiègne RFI.
Pogacar Poggi qui voudra imiter Pauline Ferrand-Prévot. La Française a dompté les pavés pour remporter pour la première fois Paris-Roubaix. Pour sa première participation, l'enfer, mais aussi l'envers du Nord. On y reviendra tout à l'heure avec Hugo Moissonnier pour Mondial Sport. Rendez-vous à 16h10, temps universel. Mais pour l'heure, moi je vous laisse avec Nemo Hampis pour la suite et la fin de RFI Matin.
Et tout roule toujours avec Martin Guez. Merci beaucoup Martin. Encore 3 quarts d'heure ensemble dans RFI Matin. Merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde. L'actualité africaine revient à 9h30, heure de Paris. On fait un tour dans un instant au Mucem de Marseille, dans les allées d'une exposition signée de l'artiste Hervé Di Rosa. On fait également un point régulier, on vient de le faire, sur le Marathon de Paris. Toujours une vingtaine de coureurs en tête. Mais tout de suite la revue de presse des hebdomadaires. Vous revenez dans le studio, Catherine Poté. À la une, Catherine, l'inquiétude pour la Suisse du Moyen-Orient.
La Suisse du Moyen-Orient, autrement dit, la Jordanie, petit pays de 11 millions d'habitants, rarement à la une des médias. Et pourtant, selon l'Express, il est en train de devenir une poudrière. Depuis le 7 octobre 2023, les habitants du royaume hachémite dansent sur un volcan. Les opérations d'Israël en Cisjordanie et le plan de Trump pour Gaza font craindre le pire, nous dit-on. Le royaume, rappelle l'hebdomadaire, a toujours été la terre d'accueil privilégiée des Palestiniens en exil. En 1948, à la création de l'État d'Israël, ou en 67, après la guerre des Six Jours, le pays héberge aujourd'hui environ 2 millions de réfugiés palestiniens. Or, le plan de Donald Trump pour Gaza prévoit de transférer les 2 millions d'habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Mais la Jordanie a dit non et la punition ne s'est pas fait attendre. Donald Trump a bloqué l'aide financière au royaume versée chaque année depuis 1994 en contrepartie de la paix signée avec Israël.
Et cette situation en Cisjordanie inquiète aussi les Jordaniens.
Selon un diplomate interrogé par l'Express, les actions des colons et la poursuite très active de la colonisation fragilisent l'autorité palestinienne, ce qui peut provoquer son effondrement et rendre à terme impossible la mise en place d'une solution à deux États. La Jordanie serait alors laissée avec une sorte de bombe à retardement. Des centaines de milliers d'habitants de la Cisjordanie possèdent un passeport jordanien, précise l'Express, et se sont fait construire un logement dans le royaume au cas où. Mais, ajoute l'hebdomadaire, les autorités jordaniennes savent pertinemment qu'un exode de Palestiniens déstabiliserait le royaume où les frères musulmans et le Hamas sont plus populaires que jamais.
À la une également, Catherine, un appel lancé par le Nouvel Obs.
Alerte à la désinformation climatique, s'exclame l'hebdomadaire. Plus que l'Ukraine, plus que la transidentité, plus que le Proche-Orient. Dans la grande foire aux fake news qui sature nos écrans, un sujet surclasse les autres en ce début 2025. Le climat, ajoute l'hebdomadaire, selon lequel le climato-scepticisme s'est mué en une véritable industrie. Médias, réseaux sociaux, youtubeurs, librairies, c'est tout un écosystème qui permet le développement et la montée en puissance des discours dénialistes, nous dit le Nouvel Obs. Quelques expressions piochées ici et là dans la voix de différents intervenants. La biodiversité ne s'effondre pas en Europe ou à propos du changement climatique. On nous a baratiné pendant des années, il est temps d'arrêter. Une étude des propos tenus dans les médias audiovisuels français sur 3 mois révèle 128 cas de désinformation climatique. N'ayez pas d'inquiétude, RFI et France 24 font partie des très bons élèves. Aucune occurrence de désinformation climatique n'a été relevée sur leur antenne.
Vous pouvez donc rester à l'écoute. La désinformation climatique en France analysée dans les colonnes du Nouvel Obs par la climatologue française Valérie Masson-Delmotte.
Et c'est d'une analyse politique qu'il s'agit, car selon la climatologue, dans un contexte d'incertitude sociale, géopolitique et climatique, on voit émerger de nouveaux boucs émissaires. La protection de l'environnement, les agences environnementales, voire des scientifiques que l'on jette en pâture à l'opinion publique pour distraire d'une réflexion d'ensemble sur les dysfonctionnements et injustices de nos sociétés. Voilà qui est dit. Et ce n'est pas tout. Valérie Masson-Delmotte pointe la politique éditoriale des médias français appartenant au milliardaire Vincent Bolloré. Les questions climatiques, explique la climatologue, sont devenues tellement transverses que les tentatives de s'opposer à la transition écologique vont de pair avec l'affaiblissement démocratique.
Enfin, tout autre chose. Si c'est encore l'heure du petit déjeuner chez vous, voici une idée de menu.
Et attention, il faut avoir l'estomac bien accroché, car le point nous parle de l'assiette de Néandertal. C'est une géochimiste française de 40 ans, Clervia Jaouen, qui a réussi à reconstituer l'alimentation de Néandertal en étudiant l'émail de ses dents. La chercheuse, nous dit Le Point, dotée de tout son attirail d'instruments de dentiste, tente de déterminer précisément les proportions d'aliments d'origine animale, végétale ou marine de propriétaires des dents qu'elle passe au crible. Résultat, en Europe, Néandertal mangeait de grands mammifères, surtout du mammouth, mais aussi du cerf ou du renne, et, détail croustillant, de la viande putride avec des asticots. Végétariens s'abstenir. Il y a bien quelques exemples de consommation de coquillages, poissons et mammifères marins, mais on ne sait pas encore, nous dit Clervia Jaouen, si c'était fréquent ou anecdotique. Enfin, on sait que certains individus consommaient des dattes en Irak et du nénuphar en Belgique. Voilà peut-être de quoi relancer l'appétit des végétariens.
Ça donne envie. Et bon appétit, bien sûr. Merci Catherine Poté et bonne journée à vous.
RFI, toute l'actualité, Nemo en Peace.
Et les principaux titres de ce dimanche 13 avril 2025. L'attente des résultats du premier tour de la présidentielle au Gabon. Le vote hier s'est déroulé dans le calme et la sérénité pour cette première vers la fin de la transition post-coup d'État de 2023. Certains observateurs affirment avoir été empêchés d'accéder à plusieurs bureaux de vote. Incident mineur est rapidement réglé selon l'une des principales plateformes de la société civile. Le ministère gabonais de l'Intérieur évoque 87% de participation hier à 18h. Les premiers résultats provisoires devraient commencer à être dévoilés à la mi-journée ce dimanche. Il y a eu 8 candidats en lice, dont le chef de la transition, le putschiste Brice Oligui Nguema, qui bénéficiait d'une force de frappe sans égale. On continue évidemment d'en parler toute la matinée, toute la journée. Également rendez-vous à 12h30, temps universel pour Afrique Midi. Ce sera avec Pierre Boudias. En Afrique, également en République démocratique du Congo, le groupe armé CMC-FDP revendique l'attaque dans plusieurs quartiers de Goma dans la nuit de vendredi à samedi. Hier matin, le calme était revenu, pas de bilan humain. Et donc cette revendication d'un des groupes qui compose la nébuleuse dite Wazalendo, ces milices soutiens de l'armée congolaise. Le M23 qui contrôle la capitale du Nord Kivu affirmait hier matin avoir repoussé l'offensive. L'analyste Onesfor Sematumba de l'International Crisis Group y voit une probable opération de communication à destination à la fois du M23 et des autorités de Kinshasa. C'est bien entendu à lire ou à écouter sur notre application RFI Pure Radio. Je vous le disais hier, c'était jour de présidentielle au Gabon. Aujourd'hui, second tour de la présidentielle en Équateur. 14 millions d'électeurs convoqués aux urnes dans ce pays d'Amérique du Sud, situé sur la côte Pacifique, entre la Colombie et le Pérou. Le candidat de droite, Daniel Noboa, fait face à son adversaire de gauche, Luisa González. Au premier tour, seul 0,17% les séparait. Les bureaux de vote, je vous le rappelle, ouvrent à midi en temps universel. Et puis les sports, on court aujourd'hui à Paris, c'est le marathon. Les athlètes sont partis depuis 1h20 environ, une quinzaine d'athlètes en tête maintenant. On roule également sur les routes du Nord, Paris-Roubaix, 260 km de pavés. Un duel annoncé, Mathieu Van Der Poel, le tenant du titre face au champion du monde, Tadej Pogacar.
RFI à Paris, 89 FM.
9h21, l'heure de votre chronique politique. Cette semaine, retour sur la visite du président français en Égypte. Valérie Gasse, la chef du service politique de RFI, a suivi Emmanuel Macron, qui a alerté sur la crise humanitaire à Gaza, mais aussi mis en scène son amitié avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Bref, Valérie, Emmanuel Macron a clairement joué la carte égyptienne.
Oui, Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi ne se sont pratiquement pas quittés. Ils ont tout fait pour montrer leur complicité avec ces petites attentions qui font la différence et marquent la volonté d'envoyer un message au-delà des déclarations officielles avec des images, celles de deux présidents sans cravate qui traversent le souk Khan el-Khalili pour aller dîner dans un restaurant comme des amis. Celle des deux mêmes dans une rame de métro du Caire assis côte à côte et parlant contrat à bâton rompu de manière enjouée, ou celle encore d'un privilège rare dont s'est enorgueilli l'Élysée, du président Sissi qui accompagne Emmanuel Macron à El Arish, cette ville stratégique du Sinaï où est stockée l'aide humanitaire à destination de la population de la bande de Gaza.
Et oui, parce que Valérie, cette visite avait surtout comme objectif de dénoncer le drame que vivent les habitants de la bande de Gaza.
C'était la priorité. Depuis des semaines, Emmanuel Macron était concentré sur la guerre en Ukraine. En se rendant en Égypte, il a voulu montrer qu'il ne renonçait pas à essayer de faire entendre sa voix sur le Proche-Orient aussi, et il a choisi l'option Sissi pour le faire. Le chef de l'État connaît bien le président égyptien qui est un interlocuteur clé dans la région. À travers lui, Emmanuel Macron a apporté son soutien au plan arabe de reconstruction de Gaza et a dénoncé la situation de la population palestinienne, intenable selon lui, avec le blocus israélien qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire et prive les Gazaouis de nourriture et de soins.
Et Valérie, quel est le bilan de cette visite ?
Des messages ont été passés. La France et l'Égypte sont des partenaires stratégiques. La France veut travailler avec les pays arabes. Elle ne renonce pas à trouver une solution politique à deux États après l'obtention d'un cessez-le-feu et envisage même de reconnaître l'État palestinien prochainement. Emmanuel Macron a essayé de montrer que la France avait un rôle à jouer, notamment pour plaider auprès des États-Unis. Le président de la République a d'ailleurs organisé durant son voyage un coup de téléphone à Donald Trump à trois avec le président égyptien et le roi de Jordanie. Et en quittant le président Sissi, il lui a glissé « Quand j'aurai un retour des États-Unis, je t'appellerai », comme pour lui dire « Compte sur moi et à bientôt ».
La chronique politique de Valérie Gasse, la chef du service politique de Radio France Internationale. Mais jusqu'où va la science ? C'est la question, en tout cas l'une des questions que l'on se pose tous les dimanches sur RFI avec Caroline Lachowski. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Caroline, on parle douleur et interjection.
Aïe, aou ! Quand ça fait mal, c'est la voyelle A
qui sort systématiquement de la bouche des humains, quelle que soit leur langue. C'est le constat de la chercheuse Maya Ponsonnet et de ses collègues de l'Université d'Australie-Occidentale, de l'Université Lumière à Lyon et de l'Université de Hong Kong, qui ont étudié les interjections de douleur, mais aussi de dégoût ou de joie, dans 131 langues différentes sur tous les continents. Résultat paru dans le journal de la Société Acoustique Américaine, en coréen, comme en sérère, en français, comme en langue aborigène d'Australie ou toupie d'Amérique centrale, on dit bien « aï » ou « aouch » ou « awa » ou « akai » ou « ayou ». Toujours des variations autour du « a », qui correspond d'ailleurs au cri poussé par tous les humains quand ils se font mal. Vous pouvez le vérifier si le cœur vous en dit. Quand la douleur est trop forte, on crie « ah » avant de dire « aïe ». C'est ce qu'on appelle des vocalises non linguistiques qui pourraient bien être à l'origine du langage. C'est une hypothèse. Les humains auraient commencé par des vocalises « ah » qui deviennent des interjections « aïe » ou « aouche » ou « akai » compréhensibles et partagées dans nos langues respectives par nos frères et sœurs humains.
Mais alors Caroline, qu'en est-il des interjections qui expriment le dégoût ou la joie? Est-ce que là aussi, on peut parler de langage universel?
Pas vraiment. Notre burk de dégoût a évidemment des équivalents dans toutes les langues, mais aucune régularité comme les cherchent les linguistes. En revanche, pour exprimer la joie, même si c'est moins flagrant que pour le aïe de douleur, dans la majorité des 131 langues étudiées, Maya Ponsonnet et ses collègues ont mis en évidence la voyelle i, comme dans nos rires et nos sourires, surtout quand il y a de la surprise. Et c'est aussi ce qui ressort de cette étude comparative. Les émotions exprimées ont beau être aux antipodes, c'est dans l'expression et dans la manifestation de la surprise que nos interjections se ressemblent. Une douleur violente s'exprime par « aïe » ou « aouche », une joie inattendue « youpi » en « i », ce qui montre tout de même que nous pouvons partager nos émotions les plus fondamentales, nos douleurs et nos joies, dans toutes les langues et avec tous les locuteurs et locutrices du monde.
Jusqu'où va la science? Merci Caroline Achowski pour toutes ces explications. Allez, avant le retour de l'actualité africaine, dans 5 petites minutes, détour par le sud de la France pour le reportage culture. À Marseille, précisément, où le MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, prend des airs de fête foraine. L'artiste Hervé Di Rosa y dévoile jusqu'au 1er septembre son exposition un air de famille qui mêle les collections du musée et ses propres œuvres. Elisabeth Le Quéré est allée y faire un tour.
Peintre globe-trotteur, fondateur du Musée des Arts Modestes, Hervé Di Rosa a toujours célébré les objets du quotidien. Le MUCEM a offert à ce collectionneur compulsif un magnifique terrain de jeu, en lui ouvrant ses collections, des milliers d'objets, de meubles et d'œuvres naïves dont chacune raconte une histoire.
Ce sont des objets utilitaires, c'est des seaux, des vaisseliers, des buffets, des meubles, des trucs qu'on ne regarderait pas mais qui ont 100, 200 ans, qui ont occupé les habitations de nos grands-mères, de nos arrière-grands-parents. Et moi j'ai mis le tout ensemble quoi en fait.
Au MUCEM, c'est une fresque gigantesque et colorée qui souhaite la bienvenue aux visiteurs.
Je trouvais ce hall d'entrée un peu aride, il fallait absolument qu'il n'y ait pas juste mon nom, je m'en foutais un peu du nom. Et en fait, j'avais visité dans les réserves du MUCEM, il y avait des grands personnages en papier mâché qui sont sur des chars. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre ceux-là, je vais mettre les miennes. Parce que quand j'ai regardé mes dessins, j'ai dit, mais c'est les mêmes.
Plus loin, une armoire bretonne devient écrin pour des figurines de comics et une lessiveuse du siècle dernier dialogue avec des robots géants conçus par Hervé Di Rosa au Cameroun.
Ces robots, j'ai voulu les faire voir à côté de ce premier robot ménager à main qui est cette machine à laver qu'on doit tourner à la main avec un four à charbon dessous pour faire chauffer l'eau. Et c'est comme mes robots à moi qui ne marchent pas, qui ne lèvent pas les bras et qu'il faut les porter soi-même, ça pèse une tonne. Hein.
L'artiste a fait son marché dans les collections du MUCEM, 120 pièces qui l'ont ému, inspiré ou lui ont rappelé son enfance.
J'ai vraiment fait un voyage dans l'histoire de mes peintures, parce qu'en fait j'étais obligé de retrouver des peintures et des sculptures à moi qui se référaient à certains objets que nous avions choisis. J'ai dû retrouver la pièce que j'avais fait au Vietnam. J'ai dû retrouver, donc ça a été un vrai voyage aussi introspectif dans mon travail ainsi que un voyage dans mon enfance aussi où moi je les ai vus, ces vrais armoires et tout ça.
L'exposition est un manifeste. Hervé Di Rosa nous invite à regarder le monde différemment, à voir la poésie dans le quotidien et la beauté dans l'ordinaire, donnant une seconde vie à ce que d'autres considéreraient comme insignifiant.
Merci Elisabeth Lequéré du service culture de Radio France Internationale. Dans 30 secondes maintenant sur la radio du monde, le retour de l'actualité africaine.
RFI à Libreville, 104 FM.
La Mastroc, Jarring Effects et RFI Talent présentent
Longue plaine bordée d'étoiles.
Zar électrique.
Accompagné par les génies du Niger.
Découvrez Koyo, le premier album du trio franco-marocain de Marseille.
Les hommes, chéris les femmes, souris aux genoux, sans état d'âme.
Disponible en vinyle, CD et sur toutes les plateformes.
Ombre qui danse, tous unis dans la transe, tombent les masques et cadences. Mise en silence, tourne-volée, avance, cherche les cieux dans les sens.
Jadouane, Marie-Louane, Sahakoyo, Salam Aleikou.